Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La trêve hivernale débute ce vendredi 1er novembre. Fin des expulsions donc, même si certains ont dû quitter leur logement précaire ces derniers jours, poussés par des propriétaires et les forces de l'ordre. D'autres en revanche ont eu plus de chance. Rencontre avec une mère de 3 enfants qui va pouvoir passer l'hiver à l'abri. Nous entendrons ensuite les inquiétudes des salariés de Pôle emploi, alors qu'entre en vigueur aujourd'hui la réforme de l'assurance chômage. Une réforme compliquée à comprendre, disent-ils. Dans ce journal encore, analyse de la succession d'Aboubakar al-Baghdadi à la tête du groupe État islamique. Daesh communiquait à ce propos hier. Et puis reportage à Tyr, au sud du Liban, où les manifestants subissent la pression du Hezbollah. Ce 1er novembre marque donc la fin des expulsions locatives, trêve hivernale qui va durer jusqu'au 1er avril 2020. L'année dernière, près de 16 000 familles ont été expulsées de leur logement, selon la Fondation Abbé Pierre. C'est un chiffre jamais atteint et 3% de plus que l'année précédente, en 2017. Cette année encore, les expulsions se sont multipliées juste avant le 1er novembre, les propriétaires voulant libérer les habitations avant la trêve. Pauline Renoir a rencontré pour France Culture une mère de famille qui, elle, a évité la rue in extremis.
Samia a redouté l'expulsion jusqu'au dernier moment. Dans son studio près de la place de la Nation, où elle vit avec ses 3 enfants, plus de meubles, mais des sacs et des cartons. Elle était prête à lever le camp sans savoir où aller.
Alors là, vous avez la chambre des filles avec les 3 lits. Superposé. Et là, on a 2 matelas de camping parce qu'on s'est débarrassé du lit en cas d'expulsion forcée. J'étais obligée de me débarrasser d'un maximum d'affaires. C'est vraiment le strict minimum. C'est du camping, quoi. Du camping à la maison. Et là, je suis contente. Bon, on a quand même gagné une petite bataille. C'est pas la guerre. C'est la bataille, quoi, du logement. On a gagné une petite bataille sur le logement.
Mardi soir dernier, un appel de la police délivre Samia de ses angoisses. L'expulsion n'aura pas lieu. C'est en partie grâce à l'association Droit au logement qui a manifesté devant chez elle pendant plusieurs jours. La jeune femme, qui gagne à peine plus d'un SMIC, a maintenant 5 mois pour trouver un nouvel appartement. Son dossier est en attente dans plusieurs services sociaux.
On n'a aucune visibilité. La seule visibilité qu'on a, c'est le jour où on a une proposition et c'est là qu'on a quelque chose. On est très dépendant de toutes ces procédures qui sont malheureusement très dures, très difficiles à comprendre.
Le retour de l'encadrement des loyers à Paris depuis le 1er juillet donne de l'espoir aux associations pour rendre plus accessibles certains logements. Mais pour Marie Rotanne de la Fondation Abbé Pierre, il faut bien plus un plan d'urgence nationale.
Un plan de 100 millions d'euros. Ces 100 millions, ça vise notamment à abonder des fonds qui viennent rembourser l'impayé de loyer aux propriétaires ou qui viennent l'indemniser lorsque l'expulsion effective n'est pas réalisée par les forces de l'ordre.
La Fondation Abbé Pierre alerte aussi sur la hausse des charges depuis un an. 5% de plus pour les propriétaires qui répercutent sur les loyers. Encore un frein dans l'accès au logement pour les plus précaires.
Les questions de logement encore et cette décision du tribunal d'instance de Marseille hier. Il condamne une copropriétaire de la rue d'Aubagne à verser 5000 euros à sa locataire, rescapée de l'effondrement de l'immeuble insalubre, c'était il y a un an. Une indemnisation pour cette jeune femme qui avait quitté les lieux 3 jours plus tôt pour se réfugier chez une amie en raison de la crainte que lui inspirait l'immeuble. Les premières mesures de la réforme de l'assurance chômage entrent en vigueur aujourd'hui. Les conditions d'accès sont durcies. Il faut maintenant avoir travaillé 6 mois sur les 2 dernières années au lieu de 4 mois sur 28 auparavant. Le texte inquiète les demandeurs d'emploi et les agents de Pôle emploi. Ils redoutent des arrivées massives de chômeurs en agence, des chômeurs en colère ou perdus face aux changements à venir. Écoutez à ce propos David Valaperta de la CFDT Pôle emploi.
Il y a une appréhension et des interrogations qui se posent ici et là d'une partie aujourd'hui des salariés sur ce que va être effectivement l'attitude des demandeurs d'emploi qui vont découvrir cette baisse de droits parce que beaucoup sont un petit peu passés quand même à côté de l'information. Ils vont la découvrir maintenant dans les prochaines semaines. Donc aujourd'hui, nous demandons un plan d'accompagnement vraiment de qualité et poussé pour les salariés de Pôle emploi. Et la deuxième chose que nous réclamons, c'est en tout cas que la direction de Pôle emploi se mettre en ordre de marche, en tout cas pour être en capacité de renforcer les accueils des agences si jamais nous constatons, comme nous le craignons, une augmentation importante des flux, des sollicitations des demandeurs d'emploi auprès des conseillers Pôle emploi, mettre en place également des organisations pour aussi faire en sorte de prévenir et d'éviter des situations de conflit, de tension qui pourraient éventuellement survenir.
C'était David Valaperta de la CFDT Pôle emploi. Autre changement de ce 1er novembre, les tarifs réglementés du gaz, ils augmentent de 3% en moyenne. C'est la fin d'une année de modération après la crise des gilets jaunes en novembre 2018. En bref encore et au chapitre des changements toujours, Jean-Pierre Farandou remplace Guillaume Pépi à la tête de la SNCF aujourd'hui, alors que des préavis de grève s'enchaînent au sein de l'entreprise. Le débrayage au technicentre de Châtillon pourrait s'étendre à 2 autres sites en région parisienne, selon Sudrail, sans compter les préavis de grève reconductibles déjà déposés à partir du 5 décembre prochain pour protester là contre la réforme à venir des retraites. Le groupe État islamique a confirmé hier la mort de son chef Aboubakar al-Baghdadi et l'organisation islamique annonce dans la foulée la nomination d'un successeur à sa tête, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi. Daesh s'est ainsi exprimé via son organe de communication Hamak, une annonce analysée ce matin par David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Il est aussi et surtout chercheur à l'Institut d'analyse stratégique.
Il y a d'abord la nomination d'un successeur, et d'ailleurs calife en arabe c'est celui qui succède, donc il fallait trouver un successeur au calife al-Baghdadi, en l'occurrence Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraysh, et le patronyme est intéressant parce que ça fait référence al-Quraysh justement à la grande tribu du prophète, et dont sont issus un certain nombre de clans par la suite, mais en tout cas c'est une forme de légitimité justement très importante pour celui qui doit succéder au défunt, au calife autoproclamé. Sous réserve de confirmation par la suite, mais il semblerait que ça puisse être un Irakien. Et puis effectivement la référence au lignage, non pas à proprement parler du prophète, mais enfin en tout cas de la tribu du prophète, qui est un gage de légitimité qui permet d'asseoir par la suite effectivement la légitimité du successeur, qui aura un fort à faire compte tenu des difficultés de Daesh aujourd'hui. Il s'agit de rassembler effectivement les troupes et de perpétuer le message du calife autoproclamé al-Baghdadi.
Des propos recueillis par Nathanaël Charbonnier. À quoi joue le fils du président brésilien? Le député Eduardo Bolsonaro a jeté le trouble hier en évoquant l'éventualité de restaurer un régime répressif dans le pays, comme lors de la dictature militaire entre 64 et 85. Un régime répressif si, a-t-il dit, la gauche se radicalise, comme dit-il, c'est le cas en ce moment au Chili. Face au tollé, le député a ensuite fait marche en arrière, alors que son père, le président Jair Bolsonaro, mettait fin hier à l'abandonnement des organes gouvernementaux pour un journal, le journal Fola, l'un des principaux quotidiens du pays. Au Liban, les manifestations continuent malgré la démission mardi du Premier ministre Saad Hariri. Le pays tout entier est mobilisé depuis 2 semaines maintenant contre l'ensemble de la classe politique. Une mobilisation qui effraie certains pourtant, qui habitent dans le sud du pays, dans le fief du Hezbollah, grand parti chiite soutenu par l'Iran. C'est un reportage à tir de Chloé Doma.
Retranchés sur un rond-point, les manifestants ne sont plus qu'une poignée. Entourés par la circulation, l'armée et les affiches des partis politiques qu'ils dénoncent. Dans cette région, tenue d'une main de fer par les partis Hezbollah et Hamal, une grande partie de la population refuse de mettre tous les politiciens dans le même sac.
Si ça avait continué comme au début, on descendait tous ensemble et c'était très bien. Très très bien. Mais quand ils ont commencé à dire tout le monde, tous pareil, non! Non, pas tout le monde. Il y a des gens propres. Il y a des gens propres et non, leur douleur est la même que la nôtre.
Ici, le clientélisme est roi et critiquer l'ordre établi se paye très cher. L'un des organisateurs nous explique.
Il y a eu une attaque contre le rassemblement et ça a effrayé les gens. Ensuite, il y a eu des rumeurs tous les jours qu'ils allaient encore nous attaquer. Des gens ont interdit à leurs enfants de participer.
Menacés, les manifestants hésitent à continuer la mobilisation. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, doit s'exprimer dans l'après-midi. Tous attendent son discours.
C'était Chloé Doma au Liban pour France Culture. L'Espagne pourrait finalement accueillir la COP25, la conférence mondiale sur le climat. Madrid s'est proposée hier à la place du Chili. Chili qui avait dû renoncer à cette COP25 en raison de la crise sociale qui secoue le pays. La météo prévue ce vendredi est plutôt simple en France métropolitaine. De la pluie pour tout le monde. Humidité et grisaille au programme sous des températures qui remontent un petit peu. Comptez ce matin 10 degrés à Lille et Strasbourg, 13 à Paris et Lyon, 17 degrés à Nantes et 19 degrés dans la matinée à Bastia.